L'île Saint-Martin, comme son nom l'indique, dans l'Antiquité était une île. Et on a plusieurs sites archéologiques, dont le plus important se situe au sud de l'île. C'est un site majeur parce qu'il est en face de l'île Sainte-Lucie. Et tous les bateaux qui arrivent de la Méditerranée et qui rentrent dans les étangs de Narbonne vont passer devant ce site de l'île Saint-Martin. Et en fait, ce site se voyait grâce à une tour, très certainement un phare, qui permettait aux marins qui arrivaient dans les étangs narbonnais de se repérer à l'entrée de ces étangs. Ils pouvaient donc ensuite s'arrêter sur ce site, qui était en fait un centre administratif, ce qu'on appelle un avant-port. Le système portuaire de Narbonne est complexe, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul port, mais plusieurs sites où les bateaux s'arrêtent, peuvent décharger une partie de leurs marchandises, repartir, ou au contraire rentrer dans le système portuaire pour aller jusqu'à l'Aude et remonter comme ça jusqu'à la ville.
Il faut imaginer, Narbonne à l'époque antique, ça n'a quand même rien à voir avec Narbonne aujourd'hui.
C'est très différent parce que effectivement, on a le littoral qui a beaucoup changé, notamment sur la partie est. Parce que dans ce secteur-là, on avait le cours de l'Aude qui se déversait dans l'Antiquité. Et donc, on a beaucoup de sédiments qui sont arrivés, qui se sont déposés et qui ont transformé tout ce secteur. Donc, toute une partie qui était en eau est aujourd'hui complètement atterrie, donc sous terre. Tout ce que l'on voit, ce sont les fondations de cet établissement, parce que tout simplement, au cours des âges, on a récupéré les pierres pour faire d'autres constructions. Donc on retrouve vraiment que les parties basses, et nous, il faut maintenant qu'on arrive à reconstituer les parties hautes. Et comme ça, donc au cours du temps, il faut effectivement voir l'évolution de ce site, qui a duré très longtemps, puisqu'il commence au 2e siècle avant Jésus-Christ, et il est abandonné au 6e siècle après Jésus-Christ. Donc on a une évolution extrêmement longue. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple cette année, on a retrouvé un four à chaux. Donc c'est vraiment la dernière attestation de la vie de ce site où on récupère justement les matériaux, les pierres, et on les transforme en chaux pour faire d'autres constructions. Donc on voit comme ça comment s'est détruit au fur et à mesure le site. En tout cas, effectivement, le travail de l'archéologue, c'est de restituer les constructions, mais aussi les activités au sein des établissements que l'on fouille. Et là, effectivement, lorsqu'on a découvert le site de Saint-Martin, on s'est interrogé sur sa fonction. Est-ce que c'était une villa au bord de l'eau, ou est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie du système portuaire, un de ces fameux avant-ports? Et lorsqu'on a fait la fouille, on a retrouvé un bâtiment central avec des pierres en grand appareil, c'est-à-dire avec des pierres qui font plus d'un mètre vingt de long. Donc, il montrait qu'on n'était pas sur un établissement privé, mais un établissement de type public. Donc, à partir de là, l'hypothèse de l'avant-port s'est petit à petit confirmée. Et la découverte d'il y a 2 ans d'une tour juste devant le site, sur une butte, donc quelque chose qui pouvait être un phare, valide l'hypothèse de ce rôle dans le système portuaire.
L'hypothèse, c'est que c'était peut-être une sorte de préfecture maritime?
Oui, ça a été une des premières hypothèses parce qu'on a ce fameux bâtiment en grand appareil au centre du site et une grande cour avec tout autour d'autres petites pièces avec des zones souterraines, donc des caves. Et on suppose que là aussi, c'est pour le stockage des marchandises. Et surtout, on a retrouvé des petits éléments comme des balances en bronze qui montrent qu'on est sur une activité de contrôle aussi des marchandises et d'enregistrement. Donc on pense que c'est là, et aussi par la position géographique du site, que les bateaux soient également contrôlés, puisqu'on sait que dans l'Antiquité, on a un système de douane, donc tout est contrôlé.
Parce qu'il faut aussi imaginer que Narbonne était un très grand port à l'époque.
Oui, Narbonne était un très grand port. C'est une ville importante. Là, on évalue la ville de Narbonne à peu près à 40 000 habitants dès l'époque romaine. Et c'est un très grand port puisque, effectivement, la création de la colonie est aussi une création politique et commerciale. Et on est au carrefour des grandes voies de communication, comme la voie domitienne, la voie d'Aquitaine, mais également le fleuve Aude, qui permet là aussi la communication vers l'intérieur des terres. Donc Narbonne est un des plus grands ports de la Méditerranée nord-occidentale. Et elle est en lien avec d'autres grands ports, notamment Rome. On a sur Narbonne même des commerçants qui font le lien, par exemple, entre l'Andalousie, où on a des grosses productions d'huile, et Rome. Et tout ça passe par Narbonne et est contrôlé là aussi par des commerçants de Narbonne.
Qu'est-ce qui transitait comme marchandises?
Alors, il y a énormément de marchandises qui transitaient, puisqu'on a des textes antiques qui nous disent tout ce qui navire sur la Méditerranée passe par Narbonne. On sait également qu'il y a l'étain qui vient de Grande-Bretagne et qui repasse justement par Narbonne pour être diffusé ensuite sur l'ensemble de la Méditerranée. Et après, il faut imaginer tous les produits comme l'huile, le vin, les sauces de poisson, mais aussi des choses qui ont complètement disparu, comme les tissus.